y aura bientôt 2000 ans. En quelques heures, une éruption terrifiante unit dans la mort les citoyens désunis. Et longtemps, la nature effaça leurs traces. On retrouva la malheureuse cité telle qu'elle avait été surprise par la mort. Pompeii, presque entière, était rendue à la lumière.
Voilà, extrait d'un film sorti en 1950. Ça s'appelle Dernier jour de Pompéi de Marcel L'Herbier pour parler aujourd'hui donc de ces découvertes exceptionnelles sur le site de Pompéi. C'est aujourd'hui à la une de la science. Caroline Tourbe, on en parle avec votre invité.
Oui, Mathieu, aujourd'hui nous sommes avec le professeur Massimo Ossana. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Pompéi et vous dirigez le chantier de fouilles, ce nouveau chantier de fouilles. Alors, à l'origine, il a été mis en place pour permettre une meilleure conservation de Pompéi, mais ça vous a aussi donné l'occasion d'explorer ou de réexplorer de grandes zones de la ville encore cachées sous les cendres. Vous avez fait des découvertes exceptionnelles, notamment, vous avez pu soulever l'énigme de l'origine, de la date exacte de l'éruption du Vésuve. Vous avez trouvé un graffiti, c'est ça qui
Oui, oui. Bah, il faut commencer à dire que ça, c'est un projet européen, c'est la communauté européenne qui a financé ce projet, ça c'est très, très important, et c'est un projet de conservation. Alors là, on était en train de stabiliser les fronts des fouilles, que c'est la zone très dangereuse où sont passés tous l'effondrement des murs dans le passé. Alors c'est là qu'a commencé à faire ce très grand projet, 3 km de travaux sur ce front des fouilles. Et évidemment, à Pompéi, on commence à faire des fouilles, les découvertes sont toujours étonnantes. Et c'est pour ça qu'il y a eu la possibilité de découvrir un morceau de Pompéi intact et des choses que...
On n'avait jamais vu.
On n'avait jamais vu et va changer l'histoire des Pompéi.
Et ce graffiti, justement, vous pouvez nous dire un peu ce que c'est?
Oui, ça, c'est une chose très intéressante parce qu'on est tombé dans une pièce qui était
en réparation.
Dans le travail, oui, des renouvellements. Il y avait d'ouvriers partout, sûrement dans cette maison. Et là, les ouvriers ont commencé à faire des cris sur les murs. Et il y a aussi cet écrit à charbon. Alors, ça signifie quelque chose de très éphémère, pas destiné à durer. Alors, il n'y a pas l'année. Il y a seulement la date que 6 jours avant le calendrier de novembre. Ça, c'est le 17 d'octobre. Et mais ça, c'est dans la pièce en cours de travail. Alors, ça signifie que l'inscription, c'est de l'année de l'éruption.
Parce qu'on avait actuellement l'idée que peut-être ça s'était passé au mois d'août.
Oui, non, c'était la tradition, octobre. C'était le mois d'août. Mais maintenant, ça c'est très important parce que on va clarifier des choses très bizarres à Pompéi. Par exemple, l'existence des fruits qui sont pas de l'été et qui avaient toujours déjà des siècles avant avait déjà fait penser que quelque chose.
Ça s'était peut-être passé plus tard que le mois d'août.
Oui, c'est ça.
Et alors, ce graffiti qui donne la date d'octobre, ce n'est pas la seule découverte. Il y a aussi des graffitis avec des slogans électoraux dans la même rue.
Non, c'est sympa parce qu'il y a des graffitis aussi un peu pornographiques, on peut dire.
Ah,
oui, parce que ça c'était normal. La moralité était très différente de nous. Alors, sur la porte de cette maison, il y a des choses qui sont écrites, divertissement, avec je ne peux pas dire qu'est-ce qui est écrit maintenant.
Il y a des scènes aussi, on voit des scènes dessinées.
Évidemment,
il y en a beaucoup à Pompéi.
Il y a des scènes, mais il y a aussi des inscriptions officielles. Ce sont des slogans politiques et dans la rue, et c'est plein d'inscriptions. Et il y a aussi une inscription qui dit « Les voisins, alors tous les voisins de cet endroit demandent de voter pour cet candidat qui est très bon. »
Ah ouais, ouais, déjà à l'époque.
Oui,
ça indique beaucoup de choses sur la vie dans le quartier.
La
vie quotidienne.
Ça, c'est incroyable à Pompéi. Tu peux tomber sur la vie quotidienne de cette personne et tu peux reconstruire aussi la biographie des personnes. Aussi avec les analyses ADN qu'on va commencer sur les victimes, on peut découvrir des choses incroyables. Et en passé, on n'avait pas l'idée de faire cette chose.
Pardonnez-moi, ça veut dire que de l'ADN a été conservé
oui,
encore en bon état?
Oui, ça c'est incroyable.
Ah bon?
On a déjà fait des expérimentations et c'est possible.
Alors, ça a résisté à la chaleur de la lave et aux poussières qui sont tombées
Oui, c'est ça. On a commencé un projet total d'analyse d'ADN sur toutes les victimes.
Sur toute la population.
C'est incroyable. Oui.
Et donc vous allez pouvoir avoir des éléments sur les familles qui étaient présentes et encore une fois sur
exactement, et aussi la provenance de cette personne, parce que ça, c'est une ville cosmopolite avec des connectivités méditerranéennes. Alors ça sera très très intéressant pour comprendre la société de Pompéi et de l'italien.
Et justement, à propos de la vie quotidienne, on a aussi découvert lors de ces fouilles des squelettes de personnes qui ont été surpris par l'éruption. Il y a une personne qui essayait de s'échapper par un balcon, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'était la première victime qu'on a trouvée. Mais maintenant, on est en train de fouiller la pièce à côté de l'inscription, de la pièce avec l'inscription. Et là, il y a 5 victimes. Sont des femmes et des enfants. Et je pense que c'est la famille qui est restée dans la maison, dans l'unique pièce qui n'était pas remplie de pierres ponces.
D'accord.
Alors c'est vraiment tragique, mais avec cette famille, on va prendre des documentations incroyables sur la société ancienne.
Massimo Sana, c'est très émouvant parce que justement, vous nous avez apporté un morceau de pierre ponce.
Oui.
Donc du Vésuve. Hein.
Oui, c'est du Vésuve, c'est la pierre ponce de Pompéi.
Qui date de l'époque. Oui. Voilà, on l'a là entre les mains, donc c'est un vrai bout d'histoire. C'est presque comme une météorite un petit peu, Jean-Philippe Usan.
C'est un fragment venu soit du confin du temps, soit du confin de l'espace. Donc à chaque fois, ces petites pierres nous apprennent beaucoup de choses.
Oui. Et très légère, mais
c'est vrai.
Dangereuse.
Ouais. on sait alors que c'est vous avez prévu de fouiller cette zone jusque février 2019, mais pour le grand public, rendez-vous quand ? Alors quand est-ce qu'on pourra...
Je pense, après, il faut commencer toutes les restaurations, et de mettre des couvertures sur cette maison. Et l'idée, c'est d'ouvrir au public à la fin de l'année prochaine.
D'accord. Et à ce moment-là, le public va pouvoir revoir ces objets. Ce sur quoi vous insistez aussi, c'est que de plus en plus, vous présentez les objets en situation.
Exactement.
L'idée de comprendre.
Il faut contextualiser et que c'est la chose la plus importante pour Pompéi parce que c'est seulement là que tu peux voir la vie quotidienne des Pompéiennes. Alors, on va muséaliser cette pièce, cette maison avec les objets qu'on a trouvés et sont beaucoup.
Est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur place à Pompéi ?
Évidemment, mais il faut aussi laisser pour les prochaines générations.
Ouais, donc il y a encore beaucoup d'histoires à remonter à la surface encore.
Évidemment.
Hein. Ouais. Merci beaucoup, professeur Massimo Osana. Vous êtes donc le directeur de conservation donc de Pompéi, de ce site extraordinaire. Merci d'être venu aujourd'hui à la Une de la Science nous en parler. Caroline, à demain !
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les champs magnétiques auraient-ils un effet toxique sur les cellules ? C'est en tous les cas ce que suggère une étude menée par une équipe de la Sorbonne Université. Les chercheurs ont étudié des cellules de drosophile, une petite mouche de laboratoire. Ils les ont soumises à des ondes comparables à celles émises par les casques d'électromagnétothérapie. Ils ont alors découvert que les ondes agissent sur une protéine, le cryptochrome, au cœur d'un mécanisme qui peut être toxique pour la cellule. Les auteurs estiment que leurs résultats pointent l'existence d'une action potentiel des champs magnétiques induits par les appareils électriques qui nous entourent, mais ils ne permettent absolument pas de conclure pour l'instant que ces appareils ont un effet sur notre santé. Sujet hautement polémique à suivre. Un nouveau fossile permet justement de préciser les contours de la Pangée, le supercontinent ancestral. Ce proto-reptile vieux de 250 millions d'années a été découvert au nord du Laos, une région qui intéresse tout particulièrement les géologues, car si la forme globale de la Pangée est relativement bien connue, certains détails leur échappent encore, et notamment la position des toutes petites plaques qui forment aujourd'hui l'Asie du Sud-Est. Le fossile découvert au Laos est baptisé Laosuchus nagua et long d'1,50 m à 2 m, et son allure rappelle étrangement celle d'un crocodile. Ce proto-reptile terrestre présente le grand intérêt d'avoir des cousins fossiles retrouvés en Chine et en Russie. Les petites plaques d'Asie du Sud-Est ne devaient donc pas former des îlots dispersés, mais plutôt une sorte de péninsule pour permettre justement les échanges entre populations par voie terrestre. Et puis l'énigme du vol des graines de pissenlit peut-être enfin résolue. Comment font les petites aigrettes hérissées de poils blancs pour voler sur plus d'un kilomètre alors qu'a priori elles ne sont pas équipées pour cela ? Eh bien, elles s'apparentent plus à une sorte de squelette de parapluie qu'à un bon vieux parachute. Et c'est là toute l'astuce. Des chercheurs écossais ont filmé sous toutes les coutures leur vol dans une soufflerie et ils ont découvert que les mouvements de l'air autour de chaque petit poil blanc dessinent une structure particulière pendant le vol en forme de donut, le beignet à trous. Impossible de ne pas y penser. C'est en tout cas la prochaine fois que vous soufflerez sur un pissenlit.